Vous êtes bien sur France Culture. C'est l'été, tout de suite, l'heure du documentaire Irène Omelianenko.
Ça y est, tu enregistres là ?
Bonjour, c'est l'heure du documentaire et nous allons suivre deux sociologues, Jean-François Lahaye, professeur de sociologie à l'Université Paris 8 et Numa Murard à l'Université Paris 7, qui avaient mené ensemble une enquête ethnographique à Elbeuf, en Seine-Maritime, à la fin des années 70. Ils décident en 2010, 30 ans après, de revenir dans cette cité de transit qui s'appelait les Écamots. Mais la cité d'alors a été détruite, il n'y a plus de traces. Munis d'une seule photographie de l'époque, ils ont arpenté les quartiers populaires de la ville, suivi les traces du passé, recueilli des paroles de ceux qui étaient leurs pilotes, leurs informateurs. Il en sortira en 2012 un ouvrage, « Deux générations dans la débine, enquête dans la pauvreté ouvrière » aux éditions Bayard. Ils vont rechercher les anciens habitants, dont Madame Boudard, qui va être le premier sésame pour revenir dans la ville aux 100 cheminées.
Je me permets de vous écrire ce message car en effet, au hasard, je suis tombé sur le site de l'université où ça parle de vous. En effet, je me présente, je suis Madame Boudard, nom de jeune fille Florent. Vous me connaissez depuis que je suis petite car mes parents sont Bernadette et Daniel. Je voulais vous dire, ça fait maintenant 5 ans que je ne fréquente plus ma famille car trop de problèmes vis-à-vis de moi. En effet, suite à un gros problème familial, ils m'ont rejeté. Donc je vis maintenant en Bretagne. Je suis marié, 6 enfants, donc 3 avec mon mari actuellement. Moi je ne travaille pas car je suis mère au foyer. Lui, mon mari, il est informaticien Bac+3, mais ici il ne trouve pas de boulot dans sa branche. Sinon je tiens pas de ma famille, je ne fume plus et je bois pas d'alcool et me drogue pas. Donc c'est sûrement ça aussi qu'on dit que je suis pas de leur clan. Si vous souhaitez me répondre, ça me ferait plaisir, mais je vous oblige pas, donc à vous libre de choix. À bientôt, je l'espère, Angélique.
Cette lettre, ainsi qu'une vieille photo jaunie, seront notre sésame pour rencontrer les anciens habitants des Écamots.
C'est Jean-François, je viens de la part d'Angélique.
Comment ?
Je viens de la part d'Angélique. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Je vous ai mis plusieurs fois au téléphone.
Retour sur enquête. Ethnographie d'une ville ouvrière. C'était la ville aux 100 cheminées. Jean-François Lahaye, Numa Murard et Jean-Philippe Navarre.
On est assassiné, non ?
Vous avez attendu les derniers rangs. Une fois que vous l'avez attrapé, le bagarre a éclaté. Priez, c'est vous, avouez-le.
Jean-François, oui.
Jean-François.
Voilà, Jean-François. J'ai eu le téléphone.
Même. J'ouvre plus. Soyez-vous sur le fauteuil, monsieur.
Comme
vous soyez-vous là, si vous voulez.
Je peux éteindre la télé ?
Mais vous deviez venir avec. Attendez, je vais baisser le.
Suivez-moi. Où ça ? Dites-le-moi.
Où c'est que vous voulez que je vous raconte, moi ? J'ai rien à vous dire.
Asseyez-vous. Faites comme chez vous. Ah, vous avez...
Ma fille ne voulait pas que j'ouvre. Hein.
Ah oui, j'ouvre, oui, hein. j'ai compris que...
Parce que vous savez, il s'en passe, elle boeuf. Hein. Ah, ouais. C'est pas marrant. Hein.
Mais comment ? C'est le marchand de glace, là ? Non.
Oui, il y a, tout là. Il y a au moins 25 ans qu'il vient, le marchand de glace.
C'est ça, c'est lui.
Je crois que c'était toi, Christophe, qui t'appelait tout à l'heure.
Non, c'est pas lui.
Parce que tu sais, moi je n'ouvre pas, j'ouvre en personne.
Ouais, si, si.
Moi je suis toujours toute seule. Voilà, faut te mettre toute seule que de mal accompagnée. Vous savez, dans la vie, on arrive à comprendre. Il y a bien une 60aine d'années que je suis Elbeuf.
Ah oui. Qu'est-ce qui vous a amené à Elbeuf ?
Écoutez ce qui m'a amené à Elbeuf. Oh, les hommes sont curieux. On dit que les bonnes femmes sont curieux, mais les bonnes hommes aussi. Bon, enfin, c'est votre métier, sûrement, je sais pas. Moi, j'avais 20 ans, et puis on demandait une place de serveuse à tout au beurre, dans la rue de la République. Là. Mmh. Ma mère m'a amenée, j'avais 20 ans. C'était une brasserie de cidre. Mmh. J'ai travaillé là-dedans, puis après je suis toujours restée dans Elbeuf.
Vous veniez d'où ?
De Saint-Amand-des-Hautes-Terres.
C'est où ?
C'est en campagne. Hein.
Loin ?
Non, une quinzaine de kilomètres d'ici, la Saussée, l'Aulbeau de Saint-Pierre-des-Fleurs, Saint-Ouen-de-Poncheuil et puis Saint-Amand-des-Hautes-Terres. Bon, puis après, j'ai travaillé en usine, et puis... chez U, du textile. J'ai travaillé chez Blin, aussi.
Chez Blin et Blin.
J'ai travaillé chez Treillé à la Saussée. J'ai travaillé l'école Jeanne d'Arc. Vous l'avez connue, l'école Jeanne d'Arc?
Oui.
Elle est fermée, maintenant. Mmh. Hein. Une belle école, comme ça, dit. Et puis, j'ai eu 3 enfants. Mmh. Non, j'ai eu 4 enfants. Et puis, j'en ai élevé une petite de l'âge de 3 ans jusqu'à 16 ans. Mmh. Mmh. Que ma fille avait connu son père... Mmh. Et puis, il s'attendait pas en ménage, mais la gosse, elle m'appelait mémé, puis elle appelait ma fille maman, alors j'ai dit, moi, je la prends. Puis à 16 ans, elle est repartie avec le père, et puis on a été 3 ans sans se revoir, et puis maintenant, elle revient, puis elle a des enfants aussi, puis...
Et chez Blin et Blin, vous avez fait combien de temps chez Blin et Blin?
Oh, bon... on a été licencié en 75, quelque chose comme ça. J'ai été 4-5 ans chez Blin.
Ça a complètement fermé en 75.
Oui, ça a fermé.
Totalement, hein, je crois.
Oui, on a été au chômage. Et puis après, bon, bah, j'arrivais à 60 ans, mon mari était bien malade, et puis je me suis mis à la retraite. Quoi.
Et la retraite, ça vous permet de vivre normalement
Oui, de survivre. Pas de vivre, de survivre. Mais enfin, ça va encore quand on fait attention. J'ai même mangé en ville à midi, tu vois. J'ai mangé une frite et puis je me vois arriver là, regarde la télé, puis bazar. J'ai mangé chez... À côté du... du truc où c'est que j'avais travaillé, il y a... C'est fermé maintenant, tout au beurre. C'est fermé, c'était une brasserie, puisque je travaillais là. Il y avait
c'est
même...
pour vous, ça?
Non, non, c'est pour le monsieur.
D'accord. C'est brûlant, hein.
Il y avait des usines, à ce moment-là, dans la rue de la République, il y avait des usines, puis par là, il y avait un cinéma, puis des boutiques, et puis tout ça. Hein. J'ai connu tout ça, moi.
J'ai vu une photo tout à l'heure. Sur Elbeuf, on voit 20, 25 cheminées.
Ouais.
Il y avait des cheminées en plein centre, plein d'usines.
Il y avait plein d'usines. Les pères colombes, tout ça, c'est fermé. Tout est fermé.
C'était plein de petites
les piles, là. C'est que l'on fait la maison de retraite en bas. C'était les piles, là.
Ouais.
Tout ça, c'est fermé.
Ouais.
Hein.
Il reste 2-3 cheminées.
Ils ont fait un square blanc, c'est fermé.
Donc les gens que vous connaissez, ils travaillent où maintenant? Les jeunes, ils travaillent où?
Travaillent par intérim, vous savez, les jeunes maintenant, ça n'a pas de place au stade. Hein. Ils sont appelés là, ils sont appelés un petit peu à droite, à gauche. Bon, allez-y les messieurs, mettez du sucre.
Le père.
J'en ai usé de la sueur, moi, pour avoir confort. Hein. De ce temps-là, c'était des 100 cheminées, on pouvait changer de place quand on voulait. Hein. Que maintenant, on ne peut plus, hein. Maintenant, j'en ai rien à foutre de la retraite maintenant.
Les 100 cheminées, c'est ce qu'on disait de la ville.
Voilà, c'est ça. Il y avait du boulot partout.
Tu pouvais demander ton compte le soir.
Voilà, il y a reprendre une autre boîte, puis revenir dans l'autre boîte. Ouais, c'est ce que je faisais, ouais.
Ah ouais?
Ah oui. C'est comme ça que j'arrivais à la retraite, j'avais mes points. Avec 8 gosses sur les bras.
Vous avez quel âge sans indiscrétion?
59.
59? Combien qu'il y en a qui ont 59 ans de ce temps-là qui sont...
Ah bah là-haut, ils avaient 67 ans, il y avait tout ça. Hein.
Ouais, mais d'aujourd'hui, de votre âge, qui sont encore vivants?
Oui, il y en a pas mal qui sont partis. Hein.
Imaginons les 100 cheminées d'Elbeuf à l'heure de gloire du textile. Puis la chimie, la papeterie, la métallurgie, la mécanique, l'automobile. Nous sommes au bord de la Seine. Les falaises de craie prolongent l'activité industrielle jusqu'à Rouen. Ce sont des milliers d'ouvriers et une dizaine de générations qui se sont succédées, marquant le territoire, le langage, les mœurs, la culture.
Dès les années 70, au début de notre enquête, les cheminées s'éteignent les unes après les autres. Les ouvriers sans qualification sont les premiers licenciés. La force perd de sa valeur. Le cours de la sueur s'effondre. Les HLM sortent enfin de terre par larges fournées, mais c'est l'engorgement. Bien des familles ne sont pas jugées dignes de ces logements flambant neufs. Elles restent dans les maisons anciennes du centre-ville, dans les ruelles, les taudis, les impasses et les ruines du logement patronal.
Certains de ces taudis sont restés dans la mémoire. La cour des miracles, le grand hôtel en face de la mairie, la rue Cousin Corblin et les fameux abattoirs abandonnés depuis 1950.
Ici, là, c'était...
Papy.
Des garages, après, ils ont fait.
Le fils.
Et c'est ici qu'ils accrochaient les bestiaux, toi, des abattoirs.
Il y avait un grand bâtiment aussi, une buanderie.
l'oncle.
Il y avait, oui, une buanderie où on lavait le linge, parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de machine à laver à l'époque. Hein. On faisait bouillir le bois, on allait chercher du bois là-haut. On passait, hop, on lavait.
Dans la marmite.
Quand on rentrait dans le logement.
Ah ouais, alors moi, nous, on avait une cuisine et deux chambres. C'est tout.
Et vous étiez.
Puis un petit cajubi. Bah, on était sept.
Donc les parents avec des enfants.
Ah bah oui.
les parents, les enfants d'un côté.
Bah, bah non, des fois, nous, on couchait dans l'autre chambre avec les parents, des fois, avec un lit, hein, naturellement. Et puis, nous, on était trois ou quatre dans l'autre chambre, avec deux chambres, c'est tout.
Et chez toi, c'était comment?
Bah, c'était pareil, hein. On avait quoi
C'était pareil.
Non, c'était, on avait la...
Chambre,
hein.
À l'époque, t'avais une chambre.
Qu'une chambre, ici, non?
Puis une cuisine.
Puis on était quatre au démarrage. Quatre, après, on s'est retrouvés à six. Ah, c'est parce que les deux autres sont nés aux Écamois, après, les deux autres. Donc ça faisait petit.
Donc c'est le matelas par terre.
Ouais.
C'est
le matelas par terre. Ah bah oui, oui. Ah, bah, oui. Ou soit des lits superposés qu'on avait aussi. Mmh. Avec des machins en bois, tu vois. Mmh. Voilà, fallait pas trop bouger parce que. Ça voulait pas la faire, oui, toi.
Ah bah moi je m'en rappelle de tout, moi ici. Moi. Ah, si oui, je te demande combien il y a d'enfants par famille, je suis sûr que tu es capable de répondre. Là il y en avait tant, là il y en avait tant.
Ah bah chez Boudéry, tu vois, il y en avait 6. Chez Cadino, il y avait. Je me rappelais les noms. Il y avait William, il y avait Pierrot, il y avait Jackie, Annick, Christine, Lydia. Ils étaient 6 aussi. Non, puis William. Il y avait William aussi. Ouais.
Nous, on était 7. 7. Ouais. Pas beaucoup.
Et donc, on se chauffait comment
Pour le charbon.
Pour le charbon.
Donc, le charbonnier venait
ouais.
Livrer
du charbon.
Ou soit d'aller chercher du charbon là, en bas. On n'avait pas le choix.
Et vous vous souvenez des métiers, des pères et des.
Mon père a travaillé à la Cipelle, il a travaillé chez Iaco, la papeterie de la Chapelle. Bon, il y en a, je sais pas, Boudherly, qui n'a jamais su travailler.
C'est un maçon, lui, de toute façon.
Ouais, maçon, mais après, il était l'invalidité. Mmh. Ego, il travaillait ici, là, il y avait une usine ici. De
quoi de...
Chez Pellerin.
Chez Pellerin.
Chez Pellerin.
C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font?
Textile.
Textile.
La teinture.
La teinture. Là.
D'accord. Bah, mon père, il était là-dedans avant. Pas mon beau-père, hein.
Oui.
Guy Marmin.
Oui.
C'est lui qui m'a laissé à 3 ans. D'accord. On avait 3 ans. Il bossait là chez Pellerin aussi. Oui.
Chez Pellerin. Mais il habitait pas là.
Si, il habitait ici, dans la cour, dans la cour des abattoirs. Et après, comme il a quitté ma mère, il est parti avec une autre femme, il habitait recouze en Corblanc. Là-bas. Et c'est son frère qui s'est foutu avec ma mère.
C'est ça.
Voilà. J'avais 3 ans, moi. J'avais 3 ans, là.
Quand
plus qu'on... Mais c'est lui, après, il nous a dit la vérité.
De...
Bah, pour dire que c'était lui qui nous avait élevés, toi. Ma soeur Patricia, elle avait un mois et demi. Hein. Ah, ouais. Ouais, oui. Hein.
Elle savait pas
ouais.
Que son père...
Ouais. Il a dit la vérité.
Dit, ben, c'est pour moi ton père. Il y a la vérité, carrément. Elle m'a dit, bah, l'autre, il est mort. Bon, bah, j'ai rien à foutre de lui, il m'a pas élevé, c'est toi. Voilà. Puis elle m'estime toujours bien. Hein. Bah, les premiers, c'est au premier mari. Elle en a eu 4. Puis moi, avec ma femme, j'en ai eu 4. Voilà.
Et puis moi, je décide pas, toi. Je te rejette, mon vieux, toi.
Complètement. Et donc, alors, racontez-nous la naissance.
Bah, j'étais en train de réparer une mobilette. Puis bon, j'étais en train de démonter le carburateur, tout. J'avais plein d'essence, tout. Puis ma femme était dans la chambre, puis elle me dit, ça y est, ça vient, ça vient. Je dis, bah, attends une minute, le temps que je me lève. Hein. Bah, le temps que j'ai...
Oui, vous l'avez aidé à accoucher?
Ah ben, bah, même pas. Même pas, le temps que je me lève les mains, tout, le gosse était arrivé déjà entre les cuisses. Hein. Ouais. Donc j'ai eu le temps d'appeler le docteur, et puis tout, le docteur est arrivé, et puis voilà.
Donc il est resté.
Donc la voisine, elle est venue, elle a mis une épingle
au
cordon, tout, puis elle a mis une cuvette, et puis le temps que j'ai cherché le docteur, puis après, ça y est. Puis hop, c'est arrivé.
Elle est restée sur place.
Voilà. Elle est restée dans le lit, puis le docteur est arrivé, puis voilà. D'abord, ils sont tous à la naissance, ils sont sortis tous comme ça. Très tous bien. Comme ça. Ah, mais j'avais tout, hein. J'avais le bassin, j'avais tout. Hein. Tout à la maison. Hein.
Ah oui,
tout.
Le bassin.
Ouais, voilà. Il n'y a que ma fille, ma dernière, Christelle. Elle a manqué d'y rester parce que le docteur était trop long à venir.
Ah oui.
Ah, je l'ai engueulé. Là. J'ai dit, vous auriez pu faire un peu plus vite. Hein. Là, il voulait la transporter, j'ai dit non, non, non. On ne transporte pas une gosse comme ça. Hein. puis un reste là, après c'est tout.
Et les autres naissances qui sont passées de la même manière, vous vous en souvenez? C'est-à-dire comment ça s'est passé?
Ah, les autres, c'est pareil. Elle a tous les gosses sortis comme ça. Hein.
Tous à la maison?
Tous à la maison. Il n'y a pas eu d'hôpital, accouchement, rien du tout. Hein. Tout à la maison. C'était une bonne femme comme ça. Hein. J'ai passé même des soirées de soir sous la flotte pour aller chercher le docteur.
Ah oui?
Ah oui, quand même. Hein,
parce... Toujours le même?
Ah, toujours. J'allais chercher à Cléon le docteur en meublette. Hein. Il n'y avait pas de voiture. Hein. Tout en meublette. Je ne regardais pas s'il pleuvait ou pas. Hein. Je courais. Hein.
Et après, là-haut, aux Zikamo, quand quelqu'un était malade...
Pareil, en meublette, hein, je courais. Hein. C'était bien là-haut. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'était plus tranquille.
Ouais, là-haut, c'était plus tranquille. Mais c'est les HLM qui nous ont fait le bordel après. Hein. Ouais, parce qu'après, ils payaient pour le loyer dans les HLM. Et puis après, bah, qu'est-ce qui a dérouillé? Bah, c'est tout le monde après. Hein.
Est-ce que vous vous rappelez en quelle année vous êtes rentré?
77.
77 aux Zikamo.
Ah oui, oui.
Ouais. Ouais, j'avais 13 ans, moi.
Vous étiez content de monter là-haut ou vous vouliez rester aux abattoirs?
Ah bah les abattoirs, ils allaient tomber. Hein.
Vous n'aviez pas le choix.
J'avais pas le choix. Ah, c'est-à-dire que c'était trop petit, hein, les petites maisons que j'avais en bas. Hein.
Oui, c'est ce qu'il disait votre fils.
Ah, ouais,
vous étiez à combien?
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait rien. Ouais. Il y avait des Gaspards qui nous passaient comme ça entre les jambes. Hein, c'est pas agréable. Hein. Bon, il y avait à manger hein, pour les attraper. Hein. C'est sûr. Hein. Mais après, c'était pour la joie. Hein. Dans les baquets qui se lavaient les marpions.
Ah ouais, au baquet. Ah, au
baquet. Oui, chacun son tour, puis s'il y en a qui chient dedans, ben, ils se lavaient dedans. Hein. Ah oui, 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 ça c'est vrai, ça. Hein.
Bon, ça,
hein.
Ça ne passe pas à la radio, on est...
Ah oui, non, il faut le dire, ça. Attends, la misère, on l'a passé, la misère. Hein.
Et puis des jarreaux l'hiver.
Oui, 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 gelé. Hein.
Cette blette, à l'intérieur.
Hein. Attends, il faut passer dans les maisons comme ça, hein, la vie. Hein.
Vous n'avez pas de gaz à l'époque?
On n'avait même pas de chat, hein, rien du tout, hein. C'était un pot de chambre. Hein.
Ouais.
On visait tout à la Seine. Hein.
Ah ben j'ai expliqué aussi ça.
Ouais. C'était la misère, hein. Fait, hein, se démerder soi-même. Hein.
J'allais chercher la soupe populaire dans le coin des pompiers, moi.
Oui.
Avec les bros.
J'étais pas tout seul.
Avec mon frère.
Avec ton frère.
Mon frère.
Puis il y avait d'autres familles qui y allaient.
Ah bah ben, il y a plusieurs familles qui y allaient là-bas. Ah oui. On n'avait pas le choix de toute façon. C'était la misère ici au démarrage. Hein. Des bons alimentaires après qu'on a eu.
Autrement, ils faisaient crédit l'épicier?
Ouais, ouais. Le boulanger aussi. Hein.
Boulanger aussi, père des champs.
Il connaissait la famille, les gens. Hein.
Père des champs.
Donc il faisait des ardoises ou des. Enfin,
ouais, on payait la semaine.
Moi, mes parents, ils payaient en fin de mois. Moi.
Ouais. Bah, le boulanger aussi, les gros pains de 4 livres.
Mm. Bah oui, c'était ça, les gros pains de 4 livres qu'on prenait et tout, pour la collation.
Ceux qui étaient payés au mois, mais il n'y avait encore pas des gens payés à la semaine?
Oui.
Ouais.
Oui.
Ah ouais, ouais. Même le café faisait crédit, de toute façon.
Ouais.
Ça c'est dangereux.
Ah, c'est pour ça qu'il y avait des buveurs. Là.
Le crédit au café, c'est.
Ouais, mais à l'époque, il y a comme ça qui marchait.
Le repas du soir ordinaire, c'était quoi?
Chez nous?
Oui.
Bah, ça dépensait, soit des pois cassés qu'on bouffait, des trucs comme ça, tu vois. C'est ce qu'on allait chercher dans la cour des pompiers.
L'hiver, c'était quoi le repas en plein hiver quand il fait froid?
Bon, il y avait soupe.
Bah, la soupe, beaucoup de soupe, beaucoup de ragoûts, des trucs comme ça, toi.
C'est ça.
Beaucoup de ragoûts.
Ouais.
Donc, par exemple.
On bouffait même, tu sais, du mou, là.
Du mou de poumon.
Ouais, bah, des poumons, vrai, hein, on mangeait ça. On appelait ça la Corée. Mm. Ouais, on n'avait pas le choix. Hein. Donc, on bouffait des couennes, des atignolles.
Ah ouais.
On mangeait tout ça, tout ce qui était moins cher. Enfin.
Je regrette, moi, ce temps-là.
Ah oui. Hein.
On était bien.
On était même trop bien.
On allait à Elbeuf, il n'y avait pas de lumière à l'époque. Hein.
Oui.
Pas d'éclairage. On est la nuit, tranquille. Maintenant, sur les ans qu'à Elbeuf, c'est le bordel.
Maintenant, on peut plus sortir comme avant, toi. Hein. Ça avoir des insultes, des trucs, des agressions. Mais dans le temps, on pouvait sortir comme on voulait. Maintenant, c'est fini tout ça.
Bon, maintenant, on va aux Zikamo.
Bon, je ferme à quoi ça va?
Oui, il faut que j'aille voir.
D'accord. Les... Alors, rendez-vous aux Zikamo, alors.
C'est une cité de transit en bordure de la Seine au milieu des bois. Avec ses 4 immeubles, ses 8 pavillons, 80 logements en tout, à 10 minutes à pied du centre-ville. Cette cité est définie par une circulaire de 72.
Les cités de transit sont des ensembles d'habitations pour le relogement provisoire des familles occupant à titre précaire dont l'accès à l'habitat définitif ne peut être envisagé sans une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion. L'habitant n'a pas le droit au maintien dans les lieux. Cette absence de droit entraîne la possibilité d'expulsion par simple ordonnance de référé.
10 ans après, on peut lire dans le journal d'Elbeuf l'annonce de sa démolition.
La municipalité d'Elbeuf a décidé de supprimer la cité des Écameaux et de reloger l'ensemble des familles sur son territoire. Le directeur de la DAS a décidé d'interrompre l'action éducative qui n'est plus adaptée aux problèmes de la population. Elle ne fait que renforcer l'assistanat. Il faut la fermer.
Jean-François, nous on habitait aux Écameaux, ça a été quelque part, ça a été une petite misère quand même. Le passé, c'est le passé. Maintenant,
le gendre.
C'est moi des moments où on me pose des questions. Revois-tu si j'en ai rien à foutre, toi. Parce que je me suis dit, j'ai vécu 20 ans avec eux. Maintenant, je me suis échappé. Ouais, chacun fait ce que de son côté, je veux dire. Pour ça, quand on parle des Écameaux, oui, ça a été une bonne période de ma vie, mais bon, maintenant c'est fini, je veux dire.
Bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire? Avant, j'étais gamin, je suis arrivé là-bas, j'avais 9 ans. Je suis reparti, j'avais pratiquement 21 ans. Maintenant, j'en ai 44. Tu sais, ça fait 20 piges pratiquement que ça n'existe plus.
Non, mais c'est pour ça qu'on est venu ici, c'est pour l'après aussi, quoi.
L'après... Bah, l'après, je veux te dire, ça fait plus de mal qu'autre chose, hein, parce que, comme je disais à ton collègue, d'habiter dans une cité où tu étais autour du bois, puis après, tu arrives en ville, tout le monde s'en meurt. Hein. Toutes les personnes qui habitaient là-haut, je ne sais pas si c'est le changement d'air qui a fait ça. Tout ce qui était à un certain âge sont tous tombés. Hein. Et il reste encore mon père qui est encore là, qui a 85 ans, qui tient encore le choc. Mais la plupart sont tous tombés. Hein. Même la mère à papy aussi. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. C'est pour ça que les Écameaux, ça a été bien, mais pas si bien que ça d'avoir pouillé tout le monde non plus. Mais il y avait un choix à faire. Hein. Quand personne paye. Ou bien, hein, c'est de la carré, quoi. Donc personne payait, ils ont pété la cité. Puis c'est devenu comme ça. Hein.
Elle est marquée.
Oui, c'est ça.
Excuse-moi. Ah, mais je pensais pas. Je pensais pas que c'était comme ça. Oui. Tu sais, moi, avec elle, c'est pas facile, hein, parce que j'avais retrouvé ma frangine, parce qu'on a été placé par la DAS, quand on était gamin.
Toi et
ouais, mes 5 frères et sœurs. J'en ai un qui est mort, qui s'est pendu dans le bois de Cléon, à l'âge de 20 ans, qui n'a pas supporté l'armée et tout, il s'est pendu. Et tous mes frères et sœurs, ils étaient tous séparés, et je ne savais pas où ils étaient.
Ah oui,
aucun.
Oui.
Et ma sœur Sylvie, que j'ai réussi à la retrouver, elle nous a payé la caravane que tu as vue au terrain, là. Et elle est venue à mon mariage. Et ces gamins, ils sont un peu turbulents, mais c'est des gamins. Ils ont mis des bouts de bois dans les bidons. Ça y a pas plu, depuis, elle n'est pas plus. Elle lui ouvre pas la porte. Moi, ça me fait chier, parce que c'est ma frangine quand même. En plus, on a été séparés vachement longtemps, plus de 20 ans.
Et donc, toi, t'arrives pas à la voir autrement?
Si, oui, tous les lundis. Je l'ai dit, parce que je vois du mal.
Fais-nous rentrer un quart d'heure.
Ma fille, elle est complice.
Fais-nous rentrer un quart d'heure. On discute un quart d'heure comme ça, et puis c'est tout.
Bah, je m'en fous.
Allez au jardin.
Tu es aux Écameaux, tu as été pendant 2-3 ans.
Oh oui, facile.
4-5 ans.
Oh oui.
Bon, et puis un beau jour, tu décides d'acheter une caravane, c'est
ouais,
ça?
Oui, parce que ça a commencé, j'ai eu des ennuis.
L'ami de toujours.
Que les carreaux étaient cassés tout le temps.
L'ami de papy.
Et je suis allé aux HLM pour leur expliquer que c'est pas à moi de payer les carreaux cassés. Je les avais déjà changés une fois, ça suffit. Ils m'ont dit non, vous les rechangez. Je dis non, il n'en est pas question. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé les carreaux, mais j'ai pas payé la facture de loyer. Ils m'ont dit non, mais vous payez votre facture de loyer. Je dis, il n'en est pas question. Ils voulaient me foutre au huissier et tout, j'ai dit bon bah puis ça je me casse. Puis je me suis barré, puis mais avant de partir, si vous voulez, j'ai été voir un marchand de caravane à Cléon, lui dire voilà, moi je suis intéressé pour acheter une caravane, mais je vous donne tant par mois. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Il m'a dit oui, ça peut se faire. Et je suis donc parti plutôt, comme avec la caravane.
Un peu au hasard. Un peu au hasard.
Un peu au hasard, oui. J'aurais pu prendre n'importe quelle autre ville que Ifto. Puis en plus, j'ai regretté d'avoir été à Ifto après. Sauf que, bon, j'ai eu de la chance de rentrer chez Delamar, hein, comme je vous ai dit.
Donc, tu arrives en caravane à Ifto, tu t'installes au terrain municipal.
Voilà, terrain de camping municipal. Et puis là, je cherche du boulot. Et par la MPE, je suis convoqué chez M. Delamar dans les fois du temps scolaire. Mais on est 10-15 à se présenter. Et bon, il me reçoit un par un. Et moi, il me dit, bah, t'as pas de connaissances en fourniture scolaire, vous n'avez pas de permis de conduire, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez aucune qualification, il y a peu de chances que ça se passe. Bon. Alors il me dit, en partant, il me dit, mais je vais quand même prendre vos coordonnées, on ne sait jamais, mais bon, je ne crois pas. Alors il me dit, vous habitez où? Alors je lui dis, à Ifto, terrain de camping municipal. Terrain de camping municipal, vous voyez. Il me dit, qu'est-ce que vous faites au terrain de camping? Il me dit, vous vivez dans quoi? Mais je suis dans une caravane. Mais vous êtes tout seul? Non, j'ai une femme depuis 3 ans. Quoi. Ben, dit, vous venez demain matin. Je vais me débrouiller. Vous êtes embauché demain matin. Et je vais voir après pour que vous restiez pas dans votre caravane, ça me plaît pas.
Voilà. Et là, tu as travaillé plusieurs années là?
2 ans. Puis en 85, ben, on était licencié.
Et donc après, qu'est-ce que tu...
Ben, après, en 87, bon, ça allait plus avec mon ex. Et puis, ben, j'ai remis le bas, j'ai attiré chez papy.
Ah bon, chez papy?
Chez papy. Mmh. Et papy, il habitait au-dessus de la femme que je suis avec maintenant. Mais cette femme-là, je la connaissais depuis bien longtemps. Hein. Mmh. Je la connaissais en 79. Avant d'aller aux Écamos, je la connaissais déjà. Mais elle était mariée. Mmh. Et moi, de mon côté, j'avais quelqu'un. On se connaissait, c'est tout. Il y avait rien de plus. Puis quand je suis revenu chez papy... En 87, le 22 septembre. Non, je suis arrivé chez papy le 4 septembre 87. Et puis, le 22 septembre 87, elle m'a demandé si je voulais venir manger chez elle, le soir. Comme je la connaissais, j'ai dit, bon, oui, pas de problème. J'ai mangé chez elle. Bon, puis j'ai vu que ça collait bien. J'ai dit, bon, je peux rester avec toi. Elle m'a dit, bah oui, si tu veux. On peut la rester ensemble. Depuis 1987, je suis avec elle.
Ça fait 25 ans.
Et on s'est mariés en 2004. Parce qu'on a vécu quand même pas mal d'années avant. Hein. Moi, je lui avais demandé avant si on pouvait se marier. Elle m'a dit non. Parce que c'était son deuxième divorce. Donc, elle n'avait pas envie de refaire sa vie encore une fois. Donc, elle a préféré attendre que de voir que j'étais sérieux, que je travaillais, que je ne buvais pas d'alcool. Parce que le mec qu'elle avait avant... le pot de sous qu'elle avait, ça partait dans l'alcool. Tout partait dans l'alcool. Donc elle n'en voulait plus. Et puis moi les gamins, je les connaissais. J'étais très bien accueilli par eux. On discutait ensemble, on jouait ensemble. Il y en a un que j'ai pris, il avait 5 ans. Pour lui, c'est moi son père.
Et t'as retrouvé quoi comme boulot quand t'es revenu ici?
Quand je suis revenu ici, je suis travaillé en intérim pour Elbeuf intérim. J'ai travaillé chez Malizieux, chez Renault. Chez Azolac, puis après j'étais agent de sécurité chez Raston. Là je suis resté 7 ans. 2000 j'étais licencié, j'étais au chômage pendant un an. Donc là on m'a convoqué à la voirie, puis on m'a dit bah il reste plus qu'à balayer la rue, cantonnier quoi. Oh j'ai dit ça me gêne pas, donc j'ai eu un poste fixe, ça me convient tout à fait. Il m'a dit bon bah vous rentrez à la ville.
Et quand papy t'a hébergé, ça a duré combien de temps chez lui?
Oh, pas longtemps, du 4 au 22.
Ah oui, c'était...
18 jours. Voilà.
Le temps de monter.
Je suis arrivé chez lui le 4 et je suis parti chez lui le 22.
Et vous connaissiez depuis longtemps?
Ah oui, elle, je la connaissais.
Non, mais je parle de papy.
Oh!
Parce qu'il m'a dit qu'il était venu te voir.
Ah ouais, papy, je le connaissais depuis l'âge de 13-14 ans. Et maintenant, j'en ai 57, c'est parce que tu vois, ça date, hein. Et même sa mère qui est décédée malheureusement, ses parents, tout. J'ai été accueilli chez lui comme leur fils.
Alors, on va aller voir papy et on va aller se promener aux Écamos 5 minutes.
Ok.
Pour visiter.
Bah, et bonjour.
Salut, bonjour.
C'était notre quartier ça.
C'était le quartier ça.
Non, on jouait dans la foire.
Les jeunes
de nous avec nous,
des notre âge.
On était connus.
J'ai commencé à habiter aux Écamos, j'avais 13 ans moi, toi. Donc ils ont commencé à monter bien avant, toi.
J'avais 13 ans, j'avais 13 ans.
48 ans.
En 64,
c'est une ville de repris de justice.
Ouais, je suis mais j'avais 13 ans. J'habitais là-haut à 13 ans. Dès qu'on est rentré, moi, dès que je suis rentré, comment le pavillon était tout neuf.
En 77.
Ça devait être construit en 75, 76.
C'est ça, un truc comme ça.
On les a tous mis là.
Ça a changé, on dit que ça a changé.
Ça a changé, mais le cœur est toujours là.
Le cahier.
Je crois pas que...
Ce que j'ai pas compris, on a vu deux bâtiments complètement murés, par exemple. Deux bâtiments.
Ouais, c'est parce qu'ils vont l'écrouler, ce bâtiment. Ils vont le faire tomber.
Et pourquoi ?
C'est pour éclater le cœur. Le cœur du problème, le cœur du sujet.
Voilà. C'est vrai. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire. Ben,
comme tu dirais, ça a cousu nettoyer le cœur.
T'es assez longtemps. Ça fait longtemps que t'es parti.
Oui.
Ouais. Ça fait longtemps.
Ouais.
C'est toujours resté pareil. Et ils essaient de casser le cœur du sujet, le noyau.
C'est-à-dire les gens les plus emmerdants.
Là où il y a le rassemblement, là où il y a le cœur.
Voilà. Ouais.
C'est le ça. Regroupement.
Le regroupement.
Le regroupement. Il casse.
T'avais quel âge quand t'es parti ?
Moi, je suis parti. Moi, après, j'étais avec ma copine. Je suis parti en 84, moi.
Et tes parents étaient encore là-bas ?
Ils étaient encore là-bas.
Et combien de temps ?
88.
88.
88.
Donc ils ont fait
c'est nous les, c'est
10 ans.
C'est mes parents les derniers partis.
Les derniers partis.
Mmh. Ah, ils n'auraient fait que 10 ans.
10 ans, c'est déjà bon.
10, 12 ans.
Bah, il y en a eu des histoires là. Ouais.
Oh.
Hein ?
Ils n'en connaissent aussi.
J'en connais, moi. Des histoires là. Bon.
Ils étaient en bas de la vallée, mais.
Ah ouais, mais ils entraînaient partout.
Mmh. Ouais, c'est eux qui recevaient les voitures, tu sais, qui arrivaient sur le toit par la pente.
Ouais.
Ah, c'est moi, ça. C'est avec mes copains, ça.
Ah, je sais pas.
Les R16.
C'est Danny Sucré qui nous a raconté ça.
Ouais, les R16.
Ils se demandent bien qui c'était qui les envoyait dans la pente, sur le toit.
Les R16, on appelait même les flics exprès, pour qu'ils viennent. Puis les flics, ils les boulaient, toi, ils montaient la côte, mais nous, on envoyait la bagnole, toi.
Ça donne pas
aujourd'hui. Tout ça, mes souvenirs là-dedans, oui, non.
Non, mais tu peux tout raconter, parce que ça fait plus de 30 ans, donc
bah
tu
oui.
peux plus être poursuivi.
Ah bah, de toute façon, c'est fini, tout ça. Bah donc, oui,
c'est bon. La prescription, comme on dit.
Ouais. Les flics d'Elbeuf, ils ont eu marre. Hein. Ils étaient à la mairie à cette époque-là. Leclerc, Magin, Sergent Garcia, tout le parle de nous. On dit, les vedettes, on les appelait esprits, nous. Puis dès qu'ils montaient, on était dans le petit bois. Les cailloux, on les appelait esprits. Les cailloux dans les fagons, tout. Les vieux fagons qu'ils avaient là, dans le temps. Là. Bleu avec la bande blanche. Là.
Moi, je me souviens une fois en Puchot.
De toute façon, on appelait. Après, on les appelait, toi. Il y avait vraiment un truc, toi, qui se passait. Ils montaient plus, les flics.
Ils en avaient marre.
Mais... Ils disaient, c'est encore une connerie. Mais là, il y avait vraiment un truc, tu vois. C'était ridicule, tu vois, parce que nous, on faisait des conneries comme ça, mais après, donc on disait, merde, dans notre tête à nous, ben merde, il y a vraiment un truc qui se passe, et puis là, ils ne viennent pas, tu vois. Il était là, le problème. Les conneries comme ça qu'on faisait. Et avec les pompiers qu'ils avaient remonté.
Mais c'était une bonne cité, quand même. Je te l'avoue.
C'était quoi le bon, justement, tu disais, il y avait
moi, le bon, j'ai vécu même... là-bas, j'ai grandi là-bas, ma conscience a grandi là-bas. Parce que quand je suis arrivé, j'étais extrêmement jeune. Donc, je me suis, on va dire, quelque part bien développé là-bas, au niveau tout, la démerde, tout ça. Il a fallu se débrouiller, il a fallu, fallu se battre, je veux dire. Puis maintenant, dans la vie où je me bats toujours, je veux dire. Je veux pas dire que je suis un bandit, parce que je suis pas un bandit. J'ai jamais été bandit, j'y serai jamais. Mais bon, dans la vie, il faut se battre aussi. Puis là-bas, j'ai commencé jeune à me battre. Et mes parents, si vous avez discuté avec mes parents, ils vous l'ont dit, et tous les jeunes qui étaient là-bas et qui étaient avec moi, ils ont commencé à se battre, à se démerder tout seul. Et il a fallu se démerder tout seul. Puis quelque part, c'est bien, parce que maintenant, on est comme ça maintenant. Puis maintenant, on a du gratin, on sait se démerder, je veux dire. Moi, je sais que si j'ai plus de boulot, si j'ai plus de maison, je saurais me débrouiller, je veux dire. Il y en a, ils ont plus de maison, ils ont plus de boulot, après, ils se laissent mourir. Moi, non, je saurais me débrouiller. Enfin, quelque part, ma jeunesse et la cité m'a fait ça. Et je suis pas tout seul, papy, il s'est démerdé tout seul, je pense, papy. Papy, même s'il avait pas de maison et rien, même du fait d'avoir son terrain là, il saurait se démerder tout seul. Moi, ça sera pareil. C'est pour ça que c'était quelque chose de pas mal aussi. Et je pense même au niveau de mes sœurs, ça les a soutenus à se démerder pour la suite, pour plus tard. Et maintenant, regardez, la plupart, ils ont une trentaine, 35, 40, ils savent se démerder bien. Hein. Il y en a, ils vont compter sur leurs parents. Nous, on a pu compter sur leurs parents. Moi, à 14 ans, je comptais plus sur mes parents. Hein. Il a fallu que je me débrouille.
Hein. Donc, tu as fait ton CAP de cariste.
J'ai fait mon CAP de mécanicien. Je ne me suis pas trop intéressé parce que j'ai eu un accident entre deux qui m'a empêché d'avoir mon CAP. Après, je me suis mis dans le charisme. En vérité, je resterai pas ma vie dans le charisme non plus. Hein. Ça arrivera un moment, je changerai, parce que le charisme, ça abîme.
C'est fatigant.
Ça abîme. Donc, pour l'instant, j'ai que 44 ans, mais j'aurai pas tout le temps 44 ans. Hein. À fur et à mesure que je vais avancer dans l'âge, le corps va s'abîmer.
Ça abîme le dos.
Ça abîme tout. Tout.
Les bras, les... C'est les chocs, c'est les...
Ça te fait vieillir 10 ans de plus à chaque fois, hein, en fait, hein, au niveau de ton cœur. Hein, parce que tout s'abîme. Un jour ou l'autre, je vais changer de métier. Ce que je ferai, je sais pas, ce sera au choix. C'est moi qui décidera ce que j'aurai à faire.
Et ta femme, elle travaille, elle...
Non, elle est au chômage, ma femme.
Elle cherche dans quel genre
Ce qu'elle peut trouver dans du boulot de femme, le ménage, les gamins. Parce que moi, on aime bien les gamins. Tout ce qui est école, tout ça, cuisine, ce serait bien. Mais bon, c'est pas évident, hein, parce qu'il n'y a plus rien.
Quand on regarde le taux
à la CAF,
de personnes sans emploi, si on apportait le nombre d'emplois équivalents sur Elbeuf, on ne ferait pas bouger beaucoup le taux de chômage. Parce qu'il n'y a pas, comment dire, la compétence. Déjà, il n'y a pas l'employabilité de ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire ? La problématique, elle remonte à la culture scolaire. D'accord ? Et moi, je me rappelle, il y a quoi, 4 ou 5 ans, Renault a réembauché un peu. Là, ils s'étaient repassés un peu en dessus des 5 000. Alors, il faut savoir que Renault Cléon a connu les 10 000. D'accord ? Comme ici, du temps Elbeuf-Louviers, où il y avait une industrialisation autour du drap exceptionnelle. Hein, bon, c'est très clair que quand ils ont augmenté un peu, là, ils avaient fait 300 ou 400 embauches quand même. Et j'étais curieux de voir si ça allait avoir un impact. Ça n'a pas eu d'impact du tout. C'est-à-dire qu'en fait, pour 98%, c'est venu de l'extérieur. Voilà. On est face à, pour le moins, une génération sacrifiée.
Enfin, c'était physique, on était jeunes.
L'oncle.
Et maintenant. Mais quoi que, quand je suis parti, bon, c'était fini la râperie, mais quand j'étais à la râperie, il y avait des personnes de 50 ans aussi. Hein. Moi, j'avais 27 ans. Donc, on leur donnait un coup de main, on était jeunes. J'ai eu de la chance de passer là, parce que quand on a arrêté la râperie, on était plus que 3 au lieu de 35 pour faire la pote. Mais tout était électronique, tout. Après, c'était plus physique, c'était... fallait savoir taper sur l'ordinateur, tout ça. Bon, c'était dur un peu au début, mais après, ça a été... quand t'as un CAP, donc t'es pas aussi con que ça. Et puis ça marchait bien, mais bon. Vu la conjoncture économique, papier descendait, c'était plus valable.
Ils ont modernisé trop tard aussi.
Les actionnaires, eux, c'était bénéfice, mais il n'y avait pas d'investissement. Et puis après, comme le papier il a baissé beaucoup, c'était plus rentable, donc ils ont arrêté tout. Et puis après, il y avait 5 machines, il n'en restait 4. Comme ça, il n'en reste qu'une, c'est la grosse, la machine 5. Il y aura 120 personnes. Enfin, moi, quand je suis arrivé, il y en avait 1600, mais ils ont été jusqu'à 2000. Là, c'est les Espagnols qui ont repris ça, espérant que ça va continuer, mais ça, c'est un autre problème. Ils gagnent des fortunes, et puis les gens, ils touchent, je dis pas des misères, mais bon, ça devrait être en fonction de... Mais bon, c'est comme ça.
Des petits salaires, quoi.
Ouais, c'est maintenant, les petits salaires... C'est pour gagner 1200 euros en ce moment.
Monter sur l'échafaudage du chantier, travailler en horaire décalé, être mal à l'aise dans une équipe, se redonner du courage pour descendre dans le puits. Tel est le chemin de la peur qui nous est donné. Dans ces moments, le corps appelle un contrefort ou une main forte pour écarter les dangers. L'alcool plus fort que moi, plus fort que mes désirs, plus fort que mes pensées, écrit l'un d'eux. Défait du travail, délié d'un horaire, le temps à soi agrandit, les récits corporels basculent dans la solitude. L'alcool qui combat la peur au travail combat aussi son absence.
Ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir par rapport aux parents, à vos parents, mais à plein d'autres parents, comment les enfants s'en sortent, s'en sont sortis, ont trouvé des issues, créé des alliances.
Il n'y en a pas beaucoup qui s'en ont sorti. Hein.
Le gendre.
Personnellement, je me rappelle avec tous ceux que je traînais quand j'étais gamin, qui sont restés droits, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Les autres qui sont devenus, je les ai déjà croisés, c'est pas tellement beau à voir, je veux dire. Bon, après, c'est leur vie, s'ils se pèsent comme ça, c'est leur problème à eux aussi. Hein. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont bien tirés dans l'histoire. Mais faire le bandit, ça paye pas. La preuve, parce que les prisons sont pleines. Donc, moi, j'ai esquivé ce système-là au bon moment. Pour devenir ce que je suis devenu maintenant. Au mieux d'être en prison ou peut-être meurt. Tout simplement. Voilà.
À ton avis, pourquoi il y en a comme toi qui ont réussi à esquiver le truc et à pas faire le bandit?
Parce qu'il y en a, ils n'ont pas fait marcher leur tête correctement. Tout simplement. C'était une question de faire marcher sa tête. Ils pouvaient faire marcher leur tête, mais ils ne l'ont pas fait. Puis bah, la plupart, bah, soit ils sont pas bien ou soit ils sont morts. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, je sais que moi, à cette époque, ma tête marchait.
Merci, merci.
Elle est morte, la ville d'Elbeuf.
Le père.
Elle est morte, c'est plus une ville. Pour moi, c'est plus une ville, Elbeuf. C'est mort. Ah oui, c'est triste. Foutre le camp ailleurs qu'ici, à Elbeuf. Elbeuf, c'est quoi? C'est des mendiants qu'il y a là maintenant. C'est que des mendiants. Faut que le maire, il fasse quelque chose, ça. Mais il faut le dire aussi, ça. Le maire, s'il n'entend rien. Bah, des espaces verts, c'est ça qu'il sait faire. Que des espaces verts. Entre Elbeuf, Saint-Thomas-Clion, tout ça, Saint-Thomas-Clion, c'est riche. Mais Elbeuf, ils font rien.
Hôtel de ville d'Elbeuf, belle bâtisse en pierre de style néoclassique. Nous allons voir le maire.
Une ville qui a un passé comme la nôtre, enfin, il faut vraiment en être fier. Moi, je veux vraiment que les Elbeuviens soient fiers de leur commune et arrêtent de la regarder avec des yeux de chien battu. Voilà. Il y a des communes qui ont des difficultés beaucoup plus grandes que les nôtres, beaucoup moins d'atouts que les nôtres. Donc moi, ce que je souhaite, c'est renverser le regard. C'est-à-dire que maintenant, il faut arrêter de se regarder comme une ville désindustrialisée qui a accueilli les Écamos et ses personnages mythiques. Mais au contraire, dire qu'on a des très beaux bâtiments industriels rénovés, un cirque-théâtre pratiquement l'un des derniers cirque-théâtre, quelques unités en France, des usines qui méritent d'être évoquées. Et l'histoire des hommes qui ont construit ces usines et qui ont fait travailler les Elbeuviens mérite d'être évoquée et plus oubliée. Donc je crois vraiment qu'il faut tourner le regard d'une autre façon et de se dire maintenant, faisons table rase en gardant quand même en souvenir ce qui s'est passé sur cette commune, mais mettons en avant nos atouts, ils sont nombreux.
Il ouais, faudrait construire d'autres usines dans Elbeuf, là. Comme ça sera bien. Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. Ça donnerait du boulot pour les jeunes, là, maintenant, parce qu'ils traînent dans les rues. Et puis maintenant, tu leur donnes du boulot. Ben, y a une tondeuse à pousser, il faut passer un stage. Un stage pour pousser une tondeuse. Ah, tu vas... Oui. Oh là, je te jure, il faut passer tous les stages sous les permis. Oh, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça.
Depuis plusieurs dizaines d'années, de démolition en rénovation, de rénovation en dégradation, les familles suivent toutes les filières d'habitat, regroupées puis dispersées. Ils seront encore éparpillés, mais toujours reviendront frapper aux mêmes portes, exercer leur droit d'être pauvres, eux ou leurs enfants, ou d'autres. Toujours les mains vides mais agitées, mains de femmes qui se tordent, mains d'hommes qui serrent les poings. L'ami de toujours. L'ami de papy.
Bonjour. Moi j'ai tout le secteur là.
Tout ça?
Toute la tout place. Seul. De 13h à 19h30.
Donc c'est trottoir, c'est.
Bah les trottoirs, la place, toutes les rues par là, toute la rue de la gare, la rue du maréchal Gallieni, toutes les rues qui redescendent, jusqu'à la rue du Neubois. Mmh. Et les grands secteurs.
Donc c'est le balai, l'appel.
Voilà. Bon là apparemment c'est pour aller à trop. Quand tu vas à Blanc-Blanc, il y a des moments.
C'est dégueulasse.
Et pas, tu connais derrière les jaunes, derrière les HLM où il y a les jaunes.
Oui.
C'est mon crâne. Hein. Tu es là pour travailler, d'accord, mais bon, pas exagérer quand même.
Elbeuf, ville propre.
Ouais, ouais, alors là.
Je veux bien. Là, je veux bien. Franchement, je veux bien. Bon, ça s'est amélioré quand même. Ça s'améliore quand même.
Il y a eu beaucoup de magasins fermés.
Bon, par là, ça va encore. Mais la rue du Général de Gaulle, l'ancienne rue de la police, l'horreur. Il n'y a plus rien, pas le
bon.
Plus rien. C'est comme il paraît, je sais pas si, moi je ne me rappelle pas, mais il paraît que le marché avant, il partait tout jusqu'en haut. Je me rappelle de la. Ce qu'il y avait avant, c'était la foire à tout. Mmh. Là, c'était super ici. Mmh. Avec la musique et tout, c'est génial. Il n'y a plus rien.
Ouais. Bon, on fait se bosser. Ouais. Bon courage.
Merci.
C'est gentil, le bœuf, mais vous savez, ça n'empêche.
Oui, il paraît que ça change. Ça change. Mais il y a beaucoup de magasins qui ont fermé, je trouve.
Oh, oui.
Non ?
Bon, oui, je suis Philippot, tout ça, c'est fermé. Hein.
C'est étonnant. Sur la place de la République, il n'y a plus un seul.
Non, non. La place de la République derrière, vous avez vu, il n'y a que le café au bout, c'est tout.
Voilà, il y a le café.
Le boucher, il a fermé. Vacher, ouais. Il a fermé.
La boulangerie aussi, je
crois. La boulangerie du coin, elle a fermé. Au bout, c'était un boucher.
Oui.
Il est fermé.
Tout a fermé.
Eh, tout a fermé. Oui, en partie, tout a fermé. Pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ce matin, je suis allé au Chien qui fume faire un petit jeu. Bah, s'il y avait 2-3 bonhommes qui faisaient un tiercé, c'était tout. Hein. Puis une personne ou deux assises. Moi, j'ai pris mon café, j'ai joué un petit rapido. Ouais. Puis quand j'ai vu que je perdais déjà 5 euros, j'ai dit, Jeannine, tire-toi.
Parce qu'il ne m'embauche pas. Même des trucs comme ça, il n'embauche pas. On sent que, comme elle dit, Oui, mais enfin, attends, en attendant la consommation, on dépense rien, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Dis, attends, moi je sais comment que ça pratique, ce truc-là. J'ai pas envie d'avoir les huissiers aux fesses, moi. Hein, toi, tu le vois comme ça aussi, hein. Oui, mais attends, nous, on est quand même bien dans notre tête, on est lucide, quand même.
Voilà mon domaine.
Papy, au jardin ouvrier.
La parcelle qui est là, ma pelouse. Puis l'autre parcelle qui est là, c'était ça, c'est moi. La calasserre, tout, la cabane.
Papy premier, roi du jardin.
Voilà. Tiens, ben elle est là-bas, Guéguette. Guéguette.
Bonjour.
Ouais. T'es tout seul?
Oui, il travaille.
Ah ouais?
J'ai pas d'ouvrir à rien faire, non.
Salut,
Guéguette. Eh oui, tu vois, il a le souvenir de ma voiture.
Un rover.
Mais ça s'est retrouvé à la fois hier. J'ai le permis d'aller à la préfecture.
Donc ta femme, elle va venir
Ma femme, non. Elle vient jamais pratiquement.
À l'intérieur, oui.
Pourquoi elle vient? Pour ça, je te dis, je suis tranquille.
Oui, c'est un terrain de l'homme. Il y a une garçonnière.
Non. Pas moi, je monte à la tour de copine, je suis dans mon petit canapé, là, tranquille. Moi, je suis tranquille, là, ici. Dès que je suis trop éméché, je dors ici. Moi, je bois pas d'eau, moi.
Moi, je bois que d'eau.
Par contre, j'arrête le 31 août.
Pour pouvoir travailler.
J'ai mon boulot, moi, après. Voilà. Là-dessus, je suis sérieux, toi. Au boulot, jamais d'alcool.
Donc pendant un mois et demi,
trois mois.
Pendant trois mois.
Pendant trois mois.
Zéro.
Zéro, zéro, zéro.
Donc tu bois de l'eau.
Que de la flotte.
Que de la flotte.
Que de la flotte.
De toute façon, tu transpires comme un.
Ah bah oui. Bah, devant les fourneaux, tout.
Devant les fourneaux.
Tu bois un coup devant les fourneaux. Allez, vas-y. Une fois, j'ai essayé. J'ai pris deux whisky, bah dis. T'as vu le papy, où c'est qu'il s'est débatté? Bah oui. Et mon chef, il me dit, oh!
Puis tu dois vraiment maigrir.
Ah bah oui,
Pendant trois mois.
Pendant trois mois, ah bah oui. Mais je mange bien aussi.
5-6 grilles.
Parce que l'alcool, ça noie. La bière, ça noie.
Donc t'arrêtes la bière et tu manges plus.
Voilà. Je me récompense sur la nourriture. Mais même à la maison, je mange bien aussi. Hein. C'est la truite. C'est la truite qui cuit, puis des patates à la braise. Voilà, c'est ce qu'on va manger ce soir. Tu vois. Voilà. Au feu de bois en plus. Voilà, t'as dû être en bois, puis comme tu dis, un peu de sapin, il y a un peu de tout. Mmh. Ouais, on voit, voilà. Et moi, je broche les cochons, toi.
Et donc ça, c'est à l'intérieur d'une fête foraine, avec les manèges...
Avec les forains, tout.
Les forains, voilà. Les manèges, les jeux, mmh. le tir...
Ah, il y a tout, il y a tout.
C'est immense.
C'est immense, la foire de Saint-Romain, c'est la plus grande foire. De Normandie, de d'Elbeuf. De la région, enfin. C'est moi qui broche les parcellés. Au mois de septembre, 1er septembre. Jusque fin septembre, jusqu'à la foire finisse. Après, je reprends vers le 15 octobre, à Rouen, à la Saint-Romain de Rouen. De Rouen jusqu'au 24 novembre.
Mais c'est quoi l'ours noir ?
L'ours noir, bah, c'est un restaurateur. Tout, on fait du cochon de lait, on fait du parcellé, il y a tout, enfin, c'est tout dedans. Et puis ça tourne. Mais c'est des mi-cochons qu'on fait cuire.
Des
c'est pas le parcellé entier. Hein.
C'est des cochonnets.
Des parcellés.
Porcelets.
Des parcellés.
Et tu termines à quelle heure ?
Alors là, moi, je commence à 10h le matin. Je reviens et il est 2h du matin. Tu vois ? Toute la journée, je suis là-bas, bloqué à Rouen, toi. Je bosse toute la journée. J'ai quoi ? En gros, une heure de pause, c'est tout. L'après-midi, vers 3h, après, on remet la mise en route à 4h30. Faire chauffer les cheminées encore pour mettre le porcelet dessus. Et puis après, 6h30, c'est parti, le service,
il
est parti.
Il est sympa, le patron ?
Ah oui, bah oui.
Je le fais dire, ouais. Comme ça, il va
être sur un mois et demi, t'es payé combien, alors ? Il te paye combien sur un mois et demi ?
Bah moi, je suis payé près de l'heure, toi. Je suis payé à l'heure, toi. Mais... Bon, bah, moi, je suis à 12 euros de l'heure, toi. Sans compter les primes qu'ils nous donnent.
Donc, ça te fait 5000 euros.
Bah, en 2 mois de fois.
Et ça te fait vivre toute l'année ?
Ah non, pas du tout. Bah non. Bah non. Si ça faisait vivre toute l'année, bah, je serais content. Hein.
Ça te fait vivre combien de mois ?
Bah, tout le mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Puis un petit peu dans le janvier, toi. Je mets un petit peu d'argent, tu sais, de côté. Et ça me permet de payer les cadeaux pour mes enfants, toi. Hein, voilà, au moment de Noël, le jour de l'an, les trucs comme ça me permet de payer pour mes enfants. C'est comme ça que je fais tout le temps. Je leur donne toujours de l'argent, de toute façon, à mes enfants. Toi, je leur donne 200 euros, 300 euros. Chacun, ils sont tranquilles. Sur mon salaire. Mais après, tout le restant, je fais un beau cadeau à ma femme aussi, toi.
Ah là là.
Bon bah dis, hein, je suis content encore de ma journée là.
Ah bah nous aussi on est
content. Bah, t'as bien travaillé, tout le monde a bien mangé.
Bah, oui.
Heureusement que t'es là pour donner un coup de main.
Hein. Oui, bah t'as raison.
Bah oui, on a
fait. Ah oui, j'étais dépêché de l'autre côté de la Seine.
J'ai
obligé d'envoyer un message à chaque fois pour qu'ils viennent, toi.
Ils sont juste en chauffer les chaises.
J'étais dans le machin.
Et on a nettoyé la table, tout, hein. On a fait la vaisselle.
La table, c'est qui l'a frotté, c'est moi avec mon balai.
Enfin, on a participé à tout.
Ouais.
On a quand même gagné une salade à l'œil. Hein.
Ah ouais. Avec Jean-François.
Ouais, mais oui. C'est grâce à ta solidarité avec tous les jardiniers.
Et puis, fille, elle a donné l'huile et le vinaigre. T'as rien fait.
Pas ma fille, ma soeur. Ma soeur. Ouais.
Puis elle a rien, t'as rien fait toi. Là.
On mange plus comme avant, tu sais, au jardin. Parce que ma femme, elle vient pas, rien du tout. Tu sais, elle vient jamais au jardin. Alors, tu sais. Voilà, je penserai à tout ça, toi. C'est samedi.
Il faut bien quitter un jour papy, René, Janine et les autres. Et c'est en même temps quitter les lieux, les écameaux. Il n'y a pas lieu de conclure parce que la cité ne cesse pas d'exister dans la mémoire. Mais notre ambition était grande. Attraper le sens des 30 années écoulées. Mais le gibier est autrement rusé. Si nous avons arraché des morceaux, d'autres nous échappent, car ce sens, justement, appartient à ceux qui les ont vécus. On peut tout de même soutenir que le travail est une ligne de crête de la mémoire et des biographies.
Bon bah demain vous êtes parti alors.
Ouais, visite de 4 jours à Elbeuf.
Ah oui.
Après 27 ans. Bon salut, merci.
Ah, on se fait une bise hein.
Ouais. Merci de ton accueil. Merci pour tous ces 7 jours.
Merci.
Ces visites, tes repas, chez toi, tout.
On se fait une bise.
C'était à la bonne franquette.
Salut. Voilà.
Allez.
Et le cahier.
Retour sur enquête, ethnographie d'une ville ouvrière. C'était la ville aux 100 cheminées. Avec Titi, Papy, Patrick et René, Janine et tous ceux qui ont accepté de nous recevoir et de revenir sur cette histoire. Merci à la Caisse d'allocation familiale, à la mairie d'Elbeuf. Merci à Fabien Deshaies, enquêteur infatigable de Paris 8. Prise de son, Étienne Leroy. Mixage, Philippe Bredin. Un documentaire de Jean-François Lahaye, Numa Murard, Jean-Philippe Navarre pour Sur les Docs.
Vous écoutez France Culture. Ce retour à Elbeuf est disponible en podcast sur le site de l'heure du documentaire. Demain, enquête toujours sur un combat contemporain, celui des Fralib et leurs 1336 jours de lutte.